France Inter est à l'honneur. Notre station est en effet très fière de vous annoncer que notre collaborateur Christophe Imbert, réalisateur à France Inter, mais encore et surtout connu de nos auditeurs pour être le chef du répondeur de l'émission de Daniel Mermet, Là-bas si j'y suis, vient d'être nommé directeur du service national des écoutes téléphoniques au sein de la toute nouvelle DRI, Direction des renseignements internes, issue de la fusion de la DST et des renseignements généraux, dans le cadre de la restructuration des services de la sécurité intérieure. C'est le chef de l'État en personne qui a procédé à cette nomination et qui a bien voulu répondre à notre micro à la polémique lancée par ses détracteurs à propos de cette nomination. Alors, sous prétexte que M. Imbert travaillait avec Daniel Mermet, je devrais me passer de son immense talent. Mais c'est absurde. Christophe Imbert est un homme remarquable. Et moi, je suis pour la promotion des hommes et des femmes remarquables de ce pays à des postes de haute responsabilité. Je suis pour la France des talents. Et pour cette raison, je suis très fier de nommer à la Direction nationale des écoutes téléphoniques le plus grand spécialiste français du téléphone. Eh bien, de la part de France Inter et de ses auditeurs, il ne nous reste plus qu'à te souhaiter bonne chance, Christophe. À l'occasion, tu pourras me filer le numéro de Carole Bouquet.
Et une fois de plus, la police en action. Je suis chauffeur de taxi. Nous manifestons en opération escargot sur la 1-1 et la police est intervenue en nous arrêtant, en arrêtant deux ou trois et en nous collant entrave à la circulation. Alors je voudrais savoir ce qu'est devenu notre droit de grève. Nous manifestons pour nos droits et pas pour autre chose. Excusez-moi, je suis en colère. Bon après-midi.
Oui, bonjour la bosse, ici, juste quelques réactions, là, je viens d'entendre les réactions suite à ce qui se passe en Birmanie. Et puis une personne qui a parlé de Kouchner, du temps où il y avait blanchi en quelque sorte total, qui utilisait des travailleurs birmans d'une manière tout à fait scandaleuse. Eh bien, je suggère à monsieur le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, lui qui a souvent invoqué le droit d'ingérence humanitaire, eh bien, monsieur Kouchner, s'il vous plaît, faites donc valoir le droit d'ingérence politique suite aux événements birmans. Voilà, ça serait l'occasion quand même de montrer votre, votre grandeur politique. Voilà, c'était Gérard. Merci, à bientôt.
Je sais pas si t'as vu, mais il y a André Gorz, là, qui s'est suicidé, quoi. Mais je sais pas si ça te fait la même chose, moi, mais moi, ça m'affecte, en fait. Tu sais, c'est mort, là, comme un peu... Toi, ça me fait un peu la même chose que quand Pierre Bourdieu était mort. Toi, c'est des gens, en fait, qui nous ont accompagnés, ils nous ont aidés à penser, quoi. Ils nous ont aidés à penser les dominations, la légitimité, toi, un peu tous ces trucs-là, quoi. Toi, c'est des gens qui avaient encore un peu une stratégie d'émancipation, toi. Un peu les trucs qui manquent au PS. L'émancipation individuelle et collective. Cette perspective où on sera tous libres, quoi. Toute ma perspective, toi, c'était d'éviter d'être un salaud, quoi. Être un salaud, toi. Tous ces mecs qui nous dominent, là, qui essaient de nous imposer l'Europe dominante, ça m'énerve, quoi. Et toi, André, André Gorz, c'est les mecs qui nous aident à réfléchir, quoi. Qu'est-ce qui nous reste, quoi?
C'est Eric de Gérardmer dans les Vosges. Donc c'était pour dire que donc le jeudi 27 à 20h30 au bar Le Grattoir, il y aura le repère de là-bas si j'y suis, et on parlera des OGM avec un intervenant de la Confédération Paysanne et un spécialiste d'agriculture biologique. Voilà, donc le jeudi 27, 20h30, bar Le Grattoir à Gérardmer.
Ouais, bonjour les amis de là-bas, Bernard. Je réagis après le 7-9 de ce matin jeudi, où le conseiller de Sarkozy qui a écrit le discours de Dakar vient de s'exprimer. Et pour se défendre d'avoir d'être raciste, d'avoir écrit une grosse bouse, il a recité une phrase Et il a tellement de mépris pour les Africains qu'il ne voit même pas ce qu'on lui reproche. Donc il cite la phrase où il nous explique que les Africains sont bien gentils avec leur gris-gris, leur tas de dieux, ils sont comme les Grecs il y a 2000 ans. Voilà, les Africains ont 2000 ans de retard. Mais sinon, il n'y a pas de mépris du tout. Allez, à bientôt, salut.
C'est vrai que ça m'a accroché l'oreille aussi ce matin. Oui, 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 j'ai avalé un peu mon café de travers en entendant cette comparaison avec l'Afrique et la Grèce d'autrefois. Merci pour ces messages, chers AMG, auditeurs modestes et géniaux. N'oubliez pas les RG, les renseignements généreux, on en a pas mal qui nous arrivent. Merci, merci, merci. À cet auditeur qui évoque André Gorce, ben, ce qui nous reste, c'est l'œuvre d'André Gorce, qu'on peut lire, relire ou découvrir. Pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous, un bel hommage lui a été rendu par Michel Contat dans Le Monde, et ça ouvre à l'envie de lire et découvrir cet intellectuel, ce penseur, qui fut journaliste aussi. Aujourd'hui, on change un peu de registre, et d'ici à 16h, on va vous coller la trouille, les moules, les copeaux, les jetons ou les chocottes. Ce sera au choix. Auparavant, encore d'autres messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, le prochain repère de la page J'y suis aura lieu ce vendredi 28 septembre à 20h30 à l'ambassade jurassienne, ancien hôtel de la Poste, à Nance-sous-Sainte-Anne. Le thème, ce sera le Grenelle de l'environnement. À bientôt. C'est de la part de Claude Déterneau. Bonne journée.
Salut les AMG, un petit message du Jura pour vous signaler la reprise du Café Repère de Dole. Donc ça aura lieu ce jeudi 27 septembre, comme chaque dernier jeudi du mois, à partir de 19h au Café Le Connemara, avenue du Maréchal Juin, donc à Dole. J'en profite aussi pour signaler la reprise du Repère des copains de Lons-le-Saunier, qui reprennent également ce jeudi 27 septembre. À 20h30 au Tiffany. Voilà, bonne journée à tous.
Oui, bonjour, je réponds au monsieur là qui sur le répondeur parlait du préfet de la Gironde et de ses quotas et qui se terminait en se demandant si finalement la France n'aurait pas intérêt à laisser rentrer des gens pour les expulser, autrement dit pour remplir les chiffres. Ben, je crois que c'est déjà fait, c'est fait là où Mermet est venu faire une émission, une semaine d'émission il y a un ou deux ans, c'est-à-dire aux Comores, à Mayotte, parce que alors on a mis un radar, puis un deuxième, puis on va en mettre un troisième pour une triangulation, pour intercepter les bateaux des Comoriens, et puis une deuxième vedette de police, et puis ça rentre, et puis ça rentre, et puis ça rentre toujours. Et puis les chiffres des expulsions sont quasiment hallucinants pour le minuscule confetti que représente Mayotte. Parce que je crois que c'est plus du trois quarts des arrêtés de reconduite à la frontière française. Alors voilà, puis la politique de la France continue à être aussi opaque, ressort d'inhéritière de la France-Afrique aux Comores. Et puis bah le siècle des Kwassa-Kwassa, 200 morts, entre 150 et 200 morts officiellement, tout le monde s'accorde à dire plus de 1500, entre 1500 et 2000 morts par an dans ce lagon, décidément bien pourri. Voilà, c'était un gars qui a passé 4 ans à Mayotte et qui est complètement révulsé par ce qui s'y passe du point de vue de cette immigration clandestine. Au revoir.
Un petit repère là-bas, c'est ici, qui a maintenant, en fait, notre première bougie, on est bien content. Ça se passe en général en plein air, dans le 34. S'il fait beau, ce sera sous les étoiles, et s'il fait pas beau, ce sera sous la chape des fumées du bar de chez Titi à Agnan. On se retrouvera là-bas, donc, pour le 27 septembre, à partir de 20h. Parler de quoi? Ben, parler, ça va être difficile, en fait, à mesure où on est en train de perdre tous nos repères, les nôtres, et puis il n'y a pas que les nôtres, il y a aussi ceux de ailleurs. Quand on pense qu'aujourd'hui, le regard que portent les gens qui sont au sud sur nous, ils doivent avoir de drôles d'idées qui leur traversent l'esprit. Quand on sait qu'il faut maintenant des tests ADN pour se retrouver en famille, ça fait tout bizarre. Il y a ça, puis il y a tellement de choses encore à discuter. Bref, voilà, venez en discuter avec nous. Et puis, ben, merci, merci un coup, et à très bientôt. On t'embrasse fort, ciao.
Thank you. dans les bois, dans les forêts.
Ah, je vous préviens, ne venez pas trop les nuits rôder.
C'est fait nuit.
Papa, au secours, il m'a griffé. Donc, il est venu.
Tout se passe bien. Tout se passe merveilleusement bien. Et depuis... Parce que du coup, quand quelque chose est bien, bah, j'ai toujours peur que ça s'arrête.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, avec Charlotte Perry. Je vais vous faire peur.
Flight number 2, arriving from...
Nous sommes ce ring où sans cesse se boxent la raison et l'émotion. La trouille, les moules, les copeaux, les jetons, les chocottes, les avoirs à zéro, les miquettes à zéro. On disait même le trouillomètre à zéro. La peur, la terreur, la phobie, l'angoisse, l'épouvante. C'est curieux tout de même. La peur, on dit une peur bleue, mais on dit jamais une peur jaune ou violette. Pas d'autre couleur que bleue, la peur. Ah, on peut être blanc de peur, oui, oui. Je suis vert, mais vert, c'est pas vraiment la peur, c'est le dépit. La peur, c'est une émotion qui bloque la raison et l'émotion. La peur fait dérailler la réflexion, l'épouvante abolit la raison. La terreur confisque les esprits, la peur, la preuve, on dit, reprendre ses esprits. La peur cloue, fige, glace, le sang s'en va, le tremblement, la chair de poule, la sueur froide. La peur, voilà ce que savent exploiter démagogues politiques depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, on ne dit pas le jour des temps. On ne dit pas depuis le jour des temps. On ne dit pas depuis le matin des temps. On dit depuis la nuit des temps. La nuit des temps. La nuit fait peur. La nuit est propice à la peur. Les démagogues, je le disais, font peur avec des faits divers, des chiffres, de l'insécurité. Mais il n'y a pas que le pouvoir qui exploite la peur. Il y a les commerciaux, les publicitaires qui, consciemment ou non, exploitent nos peurs. Mais il y a aussi la fiction, la littérature, la peinture, le cinéma. Que serait l'art? Que serait la culture? Que serait la pensée? Que serait le monde sans la peur? Voilà pourquoi, jusqu'à 16h avec Charlotte Perry, nous allons vous faire peur.
Je vois le docteur Frankenstein, je vois des étranges instruments, je vois des soignants terrifiants aspirant mes fluides et mes sangs, je vois des toupies psychopathes, je vois des psychiatres sacariens. Je vois des figurines humaines, des...
J'ai horreur de l'eau où je vois pas le fond. Ça, c'est un truc, ça m'angoisse horriblement. Vous ne me ferez pas monter sur un bateau si je vois pas le fond de la mer, ça m'angoisse d'une manière horripilante. Je supporte pas si ça m'angoisse. Si c'est une grosse étendue d'eau et qu'on voit pas le fond, si c'est noir, c'est quelque chose qui est terrible. En haute mer, je suis très mal à l'aise. Parce que il y a le mouvement de la mer, c'est noir, c'est obscur, et ça, vous me faites pas nager. Pourtant, je suis très bonne nageuse, mais je ne nage pas dans les eaux profondes et tout ça, c'est quelque chose qui m'angoisse. Ne pas savoir ce qu'il y a en dessous, ça, c'est clair et net. C'est la chose la plus angoissante pour moi. C'est irrationnel. Je ne supporte pas ça. Ça m'angoisse, cette histoire de noir. Comme ça, c'est horripilant, c'est un truc.
Oh, j'ai eu des peurs atroces pendant la guerre, mais ça, c'est un peu estompé.
C'est les moments où vous avez eu le plus peur dans votre vie ou...
Ah, c'est-à-dire que la peur de la guerre, quand il y a les bombardements, parce que par exemple, un jour, j'étais dans la maison de maman. On avait une très bonne cave, c'est une ancienne maison, vous savez, d'avant la guerre de 14. Très bien construite, solide, puisque des voisins venaient s'abriter chez nous quand il y avait les sirènes, qu'il y avait les alertes. Et on était là, et là, brusquement, il y a eu l'alerte. On a entendu de ces bombes qui éclataient, mais épouvantables, et pas loin. Alors, on est vite descendu tous à la cave, même le chien, tout le monde est descendu, on était tous. Et alors, il y a des soupiraux. Dans cette cave, ils étaient rouges, mais comme le tapis, tellement il y avait comme si tout flambait. Et ça a duré, je ne peux plus vous dire, mais... Et à un moment, c'était tellement atroce, qu'on a cru qu'on mourait. J'ai eu l'impression que je mourais, et ma mère aussi. Et on s'est jeté dans les bras l'une de l'autre, et pendant, je ne sais pas, moi, c'est difficile de juger, de calculer, 2-3 secondes, je me suis dit, je suis morte. Vous voyez ? Ça, c'est terrible. Là, j'ai eu très peur pendant la guerre. Voilà, les frayeurs de ma vie. Alors après, c'est des frayeurs de voyous. La plus grande peur que j'ai eue aussi, c'est que j'avais 15 ans, et c'est un homme, un malade. Il m'avait suivi, c'était le tramway à l'époque, qui passait là sur la grande, on appelait ça route de Créteil, maintenant c'est avenue du Général Leclerc. Mmh. Il m'a suivi jusqu'au coin de notre rue, maintenant elle s'appelle Arthur Dalidet, à l'époque elle s'appelait rue des Ormes. Et quand je suis rentrée dans cette rue, c'était éclairé au bec de gaz à l'époque. Il s'est mis dans mon dos, je l'ai senti arriver. Et puis, vous voyez ce que je veux dire ? Ou dehors ? J'avais 14 ans. J'ai hurlé au secours, mais il n'y avait personne. Hein. Et je me souviens, je le vois encore, il avait une petite moustache, un homme d'une quarantaine d'années. Il m'a dit, oh, fais pas ça ! Parce qu'il y avait un pavillon pas loin, mais les gens m'ont pas entendu. Mais lui, il a peut-être eu peur. Là. Et je me suis mise contre le mur du pavillon. C'était un mur avec une grille au-dessus. Et je suis restée là, assise par terre. Et c'est une petite camarade qui revenait d'un cours chez Pigé, je crois, qui m'a rencontrée, qui m'a emmenée chez sa maman, qui m'a fait boire de l'alcool parce qu'elle m'a dit « Tu pourrais attraper une jaunisse ». Mais ça, c'est la première grande frayeur de ma vie. Mais maintenant, il est tu, c'est pire. Parce qu'à l'époque, c'était rare qu'on tuait des enfants. Mais maintenant, c'est souvent, vous voyez, dans les journaux. Alors, je dis, j'ai encore eu de la chance. Ça m'a laissé une grande frayeur de ma vie. La première grande frayeur de ma vie.
Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce qui vous ferait le plus peur maintenant ?
Ce qui me ferait le plus peur maintenant, c'est que je ne sors plus le soir.
Vous sortez plus le soir ?
Je ne sors pas le soir, je ne suis jamais beaucoup sortie, parce que mon mari est resté 10 ans, là, il ne pouvait plus marcher. Alors, si je suis accompagnée, oui, mais... Sans accompagnement.
Vous auriez peur de sortir dehors?
Ah, je ne sortirais pas le soir.
Toute
seule? Ah non. Et puis alors, j'ai eu longtemps peur dans le métro, parce qu'il y a à peu près 12 ans, j'allais chercher ma maman pour l'emmener en vacances en Normandie. J'allais chercher maman à Maison-Alfort, donc moi, je pars d'ici, mon imperméable, mon sac en bandoulière, mon petit sac de voyage, et j'avais un magnifique sautoir ancien que mon mari m'avait acheté avec une énorme, j'ai jamais revu une griffe comme ça, une énorme griffe de tigre, montée sur or, ancien aussi, très ancienne, une ancienne, ça devait être un tigre d'un bel âge. Hein. Et alors, j'avais mis au bout de mon sautoir, qui faisait 2 grands rangs comme ça. Alors, je change à Madeleine pour prendre préfecture de Créteil, et là, il y a un couloir assez long de correspondance. Et là, tout à coup, un homme vient vers moi, me colle contre le mur, correspondance Créteil, le grand couloir, et un autre faisait le guet, il me prend le sautoir sur les côtés qui avait 2 rangs, hein.
Et il le casse.
Casse, oui. Et il est parti en arrière comme un danseur, d'une manière très légère, en sautant comme un danseur, puis en mettant le doigt sur la bouche. Et pfft, ils sont partis tous les deux. Alors je prenais le moins possible mes taux. Le moins possible. Hein. Alors ça, c'est une peur de ma vie aussi. Hein. Une grosse, grosse peur. Pourquoi ils volent les gens comme ça, ils font que ça. Hein. Enfin voilà, mes frayeurs, mais maintenant je suis très peureuse. Hein. Oui.
Mais ça ne vous empêche pas, quand même, vous n'avez pas peur au point de ne plus sortir.
Maintenant, ça va un peu mieux maintenant. Parce que mon mari l'a ajouté encore à ma peur. Bah oui, il avait peur pour moi, comme il ne pouvait plus m'accompagner, ne pouvant plus marcher vu son grand âge. Quand je m'en allais, si j'allais faire une course dans Paris et tout ça, il me disait « Attention, fais attention, nanana, prends un taxi, nanana. » Alors maintenant, je suis toujours peureuse. Mais je suis moins angoissée.
Vous pensez quand même qu'on est quand même en sécurité quand même ?
Pas trop.
Pas trop ?
Non.
Moins que quoi, à d'autres époques
Ah, moins qu'à d'autres époques, ah oui. D'ailleurs, il y a trop de malheureux maintenant. Parce que ce qui génère ça, souvent, c'est... Enfin, il y en a qui naissent malhonnêtes et voleurs. Mais ce qui génère ça, c'est... Puis il y a l'éducation aussi, mais c'est la misère, souvent. Voilà toutes mes peurs. Vous emportez toutes mes peurs, si vous pouviez m'en débarrasser. Vous emportez toutes mes peurs, si vous pouviez m'en débarrasser. Vous emportez toutes mes peurs, si vous pouviez m'en débarrasser. Vous emportez toutes mes peurs, si vous pouviez m'en débarrasser.
Quel âge as-tu ?
12 ans.
Est-ce que tu sens qu'il y a un étranger en toi ?
Oui, des fois.
Qui est cet étranger ?
J'en sais rien.
C'est le capitaine, c'est tout ?
Je ne sais pas.
Si je lui pose la question, tu lui permettras de répondre ?
Non.
Pourquoi ?
J'ai trop peur.
Si c'est à moi qu'il parle, je crois qu'il te quittera. Est-ce que tu veux qu'il te quitte ?
Oui.
Je m'adresse à la personne qui est à l'intérieur de Régine. Si vous êtes là, vous êtes également hypnotisé et vous devez répondre à toutes mes questions. Alors, parlez. Répondez.
De quoi j'ai le plus peur ?
Du noir, ça fait bizarre, mais j'ai peur du noir, de me retrouver seule là, dans une chambre noire. C'est un truc comme les petits enfants, mais c'est quelque chose que j'ai pas surmonté depuis l'enfance, quoi. Le noir, quoi. Être seule dans une pièce noire, c'est impossible, quoi. Ça, c'est vraiment une de mes grosses peurs.
Alors, tu fais comment la nuit ? Tu laisses une lumière allumée ?
Oui, si je suis toute seule, oui, tout le temps.
Tu ressens si t'es dans une pièce
J'ai du mal à respirer, je transpire, rien qu'en parlant j'ai les mains moites, c'est vraiment... aussi parce que peut-être comme on a été une grande famille et que pendant longtemps on était dans un petit appartement tous ensemble avec mes frères et sœurs et qu'on dormait tous dans la même pièce, dans le même lit, tous collés les uns les autres, je pense que ça doit devenir sûrement de là quoi en fait, hein. Ce qui fait que je ne peux pas dormir seule.
Et là, mais là, dors ça, donc tu dors.
Je suis mariée, du coup, ça. Du coup, tout va bien. Peut-être le fait d'être mariée à 20 ans, quoi. Il peut pas travailler le soir, il peut pas. Sinon, j'ai ma soeur qui vient dormir à la maison ou une copine, mais je peux pas rester seule dans le. Je peux pas, voilà.
Le plus peur,
oui.
C'est vous. Vous m'avez surpris.
Mais quoi dire de plus ?
Non, ce qui fait plus.
C'est la sécurité.
La sécurité ?
La sécurité, oui.
Ici, là, la sécurité ?
Ici, non, mais enfin, en général.
En général, en France ?
Oui.
Et dans la région en particulier?
Non, c'est à peu près calme ici.
Mais là, à Beaune, t'as commencé à...
Oui, oui, dans les villes.
Dans les villes?
Oui, puis ça peut s'étendre ailleurs.
Dans les campagnes, ça vient dans les campagnes.
Ça commence à venir?
Oui, voilà, et puis on les attend. Les voyous?
Vous les attendez?
Oui, à pied ferme.
Mais il y a eu des choses dans les campagnes qui se sont passées?
Ah oui, de temps en temps.
Oui, des petites choses.
Que des vols.
Mais pas les voitures qui brûlent, tout ça?
Ça vient encore pas. On a des, nous, on a ce qu'il faut là pour... hein.
Non, mais Dijon, oui.
À Dijon? Et ça vous fait peur,
oui? Oui, on n'est pas en sécurité. On ne sait jamais qui peut venir.
Si, il y en a venu comme ça, des fois, ben, ils sont bien reçus, ils s'en vont après, ils ne reviennent plus. On tire 2-3 coups de fusil, puis ça y est.
Non.
Si, on les fait courir.
Tu racontes des bêtises.
Ben, si, c'est arrivé.
C'est pas sérieux, ça.
Mais c'est arrivé une fois.
Oui,
bon. Il y a un de vos voisins qui a tiré un coup de feu.
Non, c'est moi.
Vous?
Mais si.
Oh, il a...
Si. Je l'ai fait traverser la rivière, qui était très haute.
C'était un voleur?
Ben, on ne sait pas ce que c'était.
On l'a pas vu.
J'ai fait les sommations, il s'est pas arrêté, j'ai tiré. 2 coups de fusil, on n'a jamais eu de nouvelles. On a regardé le lendemain, s'il n'y avait pas de trace de sang, mais il n'y avait rien. Alors il n'est pas mort. Je l'ai entendu traverser la rivière, c'est tout.
Et ça s'était jamais arrivé avant?
Non.
Depuis que vous habitez ici,
non.
Jamais?
Jamais.
Bon.
Alors je vous préviens, ne venez pas trop les nuits rôder. Il faut songer qu'on n'a pas peur. Voilà. Et puis, il ne faut pas avoir peur. Si vous avez peur, vous êtes perdu.
On se fait peur.
Ce qui te fait peur, dis-moi ce qui te fait peur. Immédiatement, la réponse vient. L'image arrive tout de suite. Et ça en dit long, ça en dit très très long sur le sens donné au mot, sur les peurs qui émergent, qui apparaissent immédiatement. Phobie, terreur, angoisse, tout ça, ça rentre derrière ce mot de peur. Et il y a aussi du plaisir dans la peur, hein. C'est des émotions qui sont souvent voisines du plaisir, du sourire, du rire, tant on est heureux de mettre la peur à distance. Ça en dit long, ça en dit très long. Et chacun se révèle à travers la peur qu'il décrit, qui lui vient à l'esprit à l'instant même où la question vous est posée.
D'être noir en France. Enfin, c'est excessif là ce que je dis, mais je me comprends dans la mesure où depuis qu'il y a trop de clandestins, on dirait qu'il n'y a que les noirs qui viennent en France en clandestinement. Quand on parle de régulariser les papiers, je vois pas que des noirs dans la foule, mais dès qu'on parle de clandestins, on montre que les noirs. Je dirais que c'est que nous qui faisons peur et que tout le monde est le bienvenu sauf nous. Je suis en France depuis l'âge de 12 ans, mais je le vis comme si je venais d'arriver. J'ai pas à me plaindre. Franchement, la France, elle m'a donné beaucoup de choses. J'ai pas à me plaindre. Mais c'est juste le fait de revoir tout le temps ces images sans cesse. Comme si on en venait de prendre conscience qu'on existait.
Tu sens des fois le regard des gens
Vraiment. Je veux dire, même encore ce matin, j'ai pris le RER. Il y avait plein de places avec différentes personnes. Une place à tous les niveaux. Bon, je suis monté, j'ai pas voulu aller me mettre à côté de certaines personnes, entre guillemets... au bon temps pour pas effrayer. Et je suis allé m'asseoir à côté d'un frère black et tout. Et malgré ça, j'ai senti Un touriste, bon, il n'est pas français, lui. C'est un monsieur, un touriste qui était avec sa petite famille et il avait presque peur que je les agresse, quoi. Alors que moi, j'allais travailler. C'était le matin, comme tout le monde, je ne sais pas pourquoi. Si je voudrais agresser quelqu'un, ce ne serait pas le matin. Non, mais c'est des petites choses que je ne veux pas tout attirer sur le racisme, mais c'est vrai que c'est la chose qui me fait le plus peur dans ce pays. Et que j'ai l'impression que les gens, ils ont un ras-le-bol général. Mais je ne sais pas si c'est contre les Noirs ou contre l'immigration en général, mais c'est chaud, je trouve. J'ai pas peur du regard des autres, parce que le regard des autres, à la limite, je pourrais l'affronter. Mais j'ai peur qu'en l'affrontant, on l'interprète comme si c'était un acte de délinquance ou... Parce que les gens, ils nous regardent, mais comment je vais bien les regarder, que ça va être fixement pour lui dire qu'il y a quelque chose qui va pas, il va baisser la tête. Ça peut être, je sais pas, en fait, c'est pas respect pour les gens que... Des fois, je baisse le regard pour pas gêner. Des fois, je rentre dans un endroit, j'ai l'impression que j'ai effrayé les gens. C'est l'impression que... Et moi, je n'ai jamais agressé personne, ça me la fout mal. De voir que je fais quelque part un peu peur, ça... Non, c'est... Je sais pas, j'ai du mal avec ça. Pourquoi je fais peur, quoi? Je me demande ça, pourquoi je fais peur? Est-ce que c'est par ma couleur? Peut-être que je me conduis comme un voyou, dans ma façon de marcher, peut-être. Mais des fois, je me pose la question. Et jusqu'à présent, j'avoue, j'ai pas trouvé de réponse.
J'allume ma télé, je vois un petit gars bien sapé. Il m'a dit que ça craint, que dehors, faut pas y aller. Que si je veux me sentir bien, et puis pour ma sécurité, alors je dois rester chez moi. Aujourd'hui, j'ai pas le choix. Bon bah je me dis qu'il fait froid. Il a peut-être raison, il a l'air tellement sérieux sous ses allures de pauvre con. La France a peur. Tous les soirs à 20h, la police vous parle. Tous les soirs à 20h, la France a peur. Tous les soirs à 20h, la police vous parle.
Et
ensuite ils font parler un type qui a pas l'air de manquer de fric. Il me dit que si je veux respirer, ben c'est pour lui qu'il faut voter. Prendre ma carte du parti, lui filer quelques billets. Il me dit que si l'air est pollué, si les Français sont stressés, c'est de la faute des immigrés. Et des BD. Pareil. La France a peur. Tous les soirs à 20h, la police vous parle. Tous les soirs à 20h, la France a peur. Tous les soirs à 20h, la police vous parle.
La première chose qui me vient à l'esprit, c'est la peur de la mort. La peur de la mort, la peur de perdre, en fait, pas forcément de la mienne, en fait. Plutôt perdre des êtres chers. Ce qui est attachant, ce que j'aime et ce que je suis en train de faire d'une façon générale, en fait. Je peux avoir peur, il y a un truc qui va bien, ben j'ai peur que ça s'arrête aussi. Donc c'est pas forcément que la mort, c'est l'arrêt de quelque chose qui est bien. Alors ça peut être la vie, mais ça peut être aussi autre chose.
T'as déjà perdu des choses comme ça?
Ouais. Et en fait, depuis, je pense que c'est ça. Je me suis rendu compte de la fragilité des choses et de la vie, alors qu'avant, je pense que j'étais insouciante et que j'avais un peu peur de rien. Et depuis que j'ai perdu quelqu'un, ça a tout chamboulé.
C'est arrivé il y a longtemps, cette
ouais. perte. Donc bon, il y a 8 ans, mais c'est longtemps pour moi. Et en fait, j'ai perdu un bébé à terme. Donc j'étais dans un euphorisme. C'était mon premier bébé. Donc c'était tout merveilleux. J'étais face à l'avenir. C'était tout beau et tout. Et j'avais pas, enfin, on n'imagine pas de toute façon. Et j'avais jamais été confrontée à la mort en fait. Et donc c'est la mort, mais en plus dans moi. Donc c'était hyper bizarre, quoi. Hyper bizarre, anormal, incompréhensif, injuste. Et tout de même culpabilisant quand même, parce que pourquoi j'ai pas réussi surtout que bon, l'explication était bon, il y avait une explication physique, mais pourquoi moi, voilà, ça arrive une fois tous les je sais pas, c'est genre 1%, même pas. Et voilà, donc ça m'arrive à moi, et du coup après, ben, quelque chose qui paraît normal, naturel, ne l'est plus, puisque c'était la chose la plus normale qui soit. Une femme, elle a un bébé, elle accouche, tout se passe bien. Moi, j'ai un bébé jusqu'au dernier jour. Tout se passe bien. Tout se passe merveilleusement bien. Et le moment d'accoucher, le bébé n'est plus là, enfin, n'est plus en vie. Donc, c'était un gros traumatisme. Et depuis, forcément, je vois la vie différemment. Parce que du coup, quand quelque chose est bien, j'ai toujours peur que ça s'arrête. J'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose qui vienne faire que non, ça va pas être naturel, ça va pas être bien, ça va pas être complètement normal, quoi. Bon, normalement, on se dit que voilà, ça devrait pas arriver, mais de toute façon, ça aurait pas dû arriver. Donc, on n'arrive plus à penser naturellement l'ordre des choses. Pour moi, il n'y a plus d'ordre des choses. J'ai l'impression de pas être sur les mêmes bases que tout le monde, quoi. J'ai l'impression que, voilà, mon parcours fait que moi, tout va pas de soi. Et que je sais que tout est fragile et que tout peut s'arrêter. Et c'est cette peur que tout s'arrête, surtout pour des événements hyper... pour les êtres chers, pour les événements heureux.
Et après, t'as été angoissée quand t'étais enceinte de ton fils.
Mm-mm. Ouais. Bon, alors, après, j'ai été super suivie et tout ça, et tout s'est bien passé, donc... C'est un événement rassurant, mais qui n'élimine en rien le vécu que j'ai eu et la peur que ça puisse arriver de nouveau, qu'il puisse se passer un truc incroyable, quoi. La peur de la mort, quand même, parce que c'est quand même la mort. Je le dis pas, mais c'est la mort d'un bébé, mais après, donc c'est une rupture, c'est une perte. J'ai peur parce que je suis pas rassurée, en fait. Mais en même temps, rien, si je raisonne, rien ne peut complètement me rassurer, puisque je sais que la vie, c'est ça, c'est que rien n'est écrit et que tout peut changer, tout peut basculer. On peut me dire, mais non, là, tout va bien, tout est bien, tu vas bien, ton fils va bien. Ouais, mais c'est ce doute qui fait que, voilà, aussi, c'est la vie. C'est l'inconnu, quand même. C'est l'avenir, c'est l'inconnu. La mort, c'est aussi l'inconnu. Tout se passe bien. Tout se passe merveilleusement bien. Et depuis, la peur de... Parce que du coup, quand quelque chose est bien, j'ai toujours peur que ça s'arrête.
Je sais pas si dans ma vie, je rencontrerai celui ou celle qui m'expliquera pourquoi... Comment certains ou certaines, en l'occurrence, parviennent à trouver les mots pour dire les choses. Les mots justes pour dire les choses. Et les choses les plus profondes et les plus graves. Mystère, ça restera sans doute longtemps un mystère, comme la peur en est un, au fond. Hein? Au fond, la peur. On continue avec cette question avec laquelle Charlotte Perry s'est baladée. Dis-moi ce qui te fait peur.
J'ai peur de la nuit à la campagne. J'ai très peur. Je sais pas, depuis que je suis petite, on m'a mis dans la tête des esprits, vous savez, que les gens qui partent, qui décèdent et tout ça, qui reviennent. Je crois pas à ces choses-là, mais on m'a tellement mis ça dans la tête depuis toute petite, que quand je pars en vacances à la campagne, la nuit, par exemple, si les toilettes sont à l'extérieur, moi je ne sors pas parce toute seule, parce que j'ai peur. J'ai peur du noir à la campagne. Et c'est surtout, j'ai peur, c'est... je ne suis pas une personne peureuse, j'ai peur de l'imprévu, vous voyez. Par exemple, il y a quelque temps, j'ai trouvé une dame morte dans un appartement. On frappe à la porte, elle ne répond pas, mon téléphone ne répond pas. Donc, comme j'ai les clés, donc je suis rentrée chez elle et je l'ai trouvée morte chez elle. Donc, j'ai eu une peur. Oh là là, j'ai encore aujourd'hui, c'est depuis le mois de novembre, je prends des antidépresseurs parce que ça m'a tellement... J'étais en mauvais état après. Pourtant, je l'ai touchée. Hein. Je l'ai même fermé les yeux parce que j'ai vu qu'elle était morte. Incroyable. Mais sur le moment, vous voyez, vous êtes quelqu'un de peureuse. Mais sur le moment, quand vous trouvez une peur, sur le moment comme ça, vous ne pensez pas à la peur. Pourtant, je suis quelqu'un de peureux. Hein. C'est après, vous voyez, après ça, que vous réagissez plus. Parce que vous vous rappelez de tous les petits moments que vous avez passés. Parce que sur le moment, quand vous avez peur de quelque chose, vous êtes un peu vous paniquez tout ça, mais vous êtes, en même temps, vous luttez pour arranger un peu les choses. Vous avez peur et en même temps, je sais pas, une confusion. Je tremblais, j'ai frappé dans toutes les portes, jusqu'au quatrième pour trouver de l'aide. Et après, les pompiers sont arrivés, donc j'ai laissé faire, je fais plus rien. Mais j'ai gardé je garde encore aujourd'hui, depuis le mois de novembre, cette image. Comme je vous dis, j'ai peur des esprits, comme on me dit ça. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, je vois des gens, des têtes. Mais j'ai vu un jour, oui, une femme. Ça, je peux le dire vraiment. J'ai vu une femme. Un jour, j'étais au lit. Mais c'est pas ici. Hein. Elle avait 18, 19 ans. J'étais dans mon lit. Et je me suis couchée vers 11 heures du soir. J'avais la lumière éteinte, tout ça. Mais dans le noir, hein, j'ai vu une tête d'une femme, un visage d'une femme, à côté de moi. Je n'ai pas vu le corps, rien, mais juste le visage d'une femme qui m'a souri. Elle m'a regardé comme ça. Et ça m'a marqué toujours. Une femme, un beau visage, pas vieille. Elle m'a souri comme ça. Et c'est parti. Parce que j'ai fermé les yeux parce que tellement que j'ai eu peur. Quand vous voyez quelque chose comme ça d'anormal, vous fermez les yeux. Donc j'ai allumé la lumière tout de suite. Et j'ai laissé la lumière toute la nuit allumée. Et je me suis caché la tête sous les couvertures toute la nuit. Toute la nuit, avec tellement que j'ai eu peur. Mais j'ai vu, c'est vrai, ce visage. Quelquefois, c'est des gens, avant de mourir, qui vous donnent des signes. Vous savez, on vous donne des signes, donc on voit des gens...
Dépêche-toi!
J'arrive! J'ai pas attaché mes lacets! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça?
Il y a beaucoup de choses, il y a pas. Je sais pas moi. Mais regarde, par exemple, moi je suis musulman. Non pratiquant. Ben, la chose qui nous fait le plus peur dans cette terre en étant musulman, c'est ne pas pratiquer la religion, tu as vu. Parce que c'est une obligation envers la personne qui est musulmane. Ça veut dire que dans les écrits du Coran, on nous oblige à faire la prière. C'est une obligation, quoi. Si tu la fais pas, ça veut dire que je pars en enfer. Je me prépare à l'enfer, déjà, tu vois. Et après, j'ai peur. Ouais, j'ai peur, c'est vrai. Mais c'est pas vraiment... C'est de la crainte, en fait. De la crainte de ne pas arriver à quelque chose. Mais vraiment peur. Ouais, j'ai peur de Dieu. C'est pas l'étape de mourir qui me fait vraiment peur. C'est Adab al-Qabr. À Dabl Kabr, c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai une obligation de faire la religion pratiquée, quoi. Tu as vu, c'est Fard l'islam, ça s'appelle. J'ai peur des choses comme ça. Sinon, ici dans la vie, j'ai pas peur de grand chose, la vérité. J'ai peur que de Dieu. Tout le reste. Avant, j'avais peur de ne pas trouver un métier. Regarde, j'ai trouvé la bif. Je gagne de l'argent, hein. C'est vrai que je fais la poubelle et tout. Bon, c'est vrai que de temps en temps, on a peur de trouver quelque chose de pas bien dans un pistolet, un bébé mort, tu vois. Une seringue avec le sida. C'est vrai qu'il y a plein de choses aussi que j'ai peur. Mais j'ai pas peur. Comment te dire ça? J'ai plus peur comme avant. Tu sais, après un divorce, après des gros problèmes dans ta vie, tu n'as plus peur, quoi. Tu attends la mort avec impatience, en fait. La mort, ça me fait même pas peur. J'adorerais mourir. Mais en paix. Sans la souffrance d'après, quoi. Parce qu'après, souffrir, pour entrer au paradis, il faut souffrir. J'ai peur de quoi encore? J'ai peur de rester dans l'attente. De ne jamais trouver un appartement, tu vois. Parce que pour le travail que je fais, il me faut un appartement. J'aime la peur. Je sais pas comment t'expliquer ça, tu vois. Pas que j'aime le danger, mais... je sais qu'il faut que je vis tous les jours, c'est un effort. T'as toujours peur de quelque chose. J'ai peur de quoi? Peur de ne jamais arrêter de fumer le shit. Ouais, ça c'est très important par contre. C'est quelque chose qui me... Je vois que je suis SDF, je m'en sors pas et j'arrive pas à arrêter le shit et ça me fait peur. Mais ne pas pouvoir arrêter la boisson, vivre réellement la vie tous les jours, tu vois. C'est pourquoi je crois qu'on bifurque, qu'on fume du chichon et on boit de l'alcool parce qu'on est un peu faible. J'ai pas peur de mourir, sérieusement. Après tout ce que j'ai vécu dans ma putain de vie, et crois-moi, la mort, ce serait vraiment le paradis pour moi. Mais c'est vrai que j'ai peur de laisser cette atmosphère, les arbres, tu vois, le vent, et voilà quoi. La pluie, les lumières, l'être humain, et ses conneries, les animaux. J'ai peur de tout ça, là, de laisser tout ça, là. J'aimerais bien vivre éternellement. Mais alhamdoulilah, comme on dit. Alhamdoulilah. Le dernier truc que je voulais parler, c'est le dentiste. Ah, putain, ouais, j'ai très peur de ça.
T'as peur de quoi, chez le dentiste?
Eh ben, qu'elle ouvre la bouche, elle me met l'appareil. Le truc normal que les gens, ils font, tu as vu? Tu arrives, tu t'installes chez lui, tu calmes. Moi, quand je m'installe sur le truc, on dirait que la chaise électrique. Sur ma vie. Et ça m'a bousillé ma vie, hein, quelque part. Parce que plus tu as peur de quelque chose, et plus tu si tu vas pas l'affronter, eh ben, tu la fais reculer, tu as vu? Et plus tu la fais reculer, et plus tu es dans la merde. Ce qui m'est arrivé jusqu'à maintenant, il me reste 13 dents dans la bouche. À 34 ans, 13 dents. Pourtant, j'ai la CMU. Je suis pas allé au dentiste demain matin, quoi. J'ai peur d'aller chez le dentiste. Il est là le problème. Donc je souffre. C'est vrai. Hein. Elle est jolie, elle, là-bas. Bonjour. Comment ça va?
Tu veux y aller chez le dentiste, non?
Ben, le problème, il est là. Parce que la dentiste, elle est là. Elle me dit, je peux faire les dents, mais moi, j'ai peur. Donc comment je vais faire pour vaincre cette peur-là, le dentiste? J'arrive pas à comprendre encore. Pourtant, je souffre. Hein. Ces trois derniers jours, j'ai eu vraiment mal. Ma première dent qui a été arrachée sans anesthésie, j'avais 11 ans. Et crois-moi, je me souviens. Et donc, ça a déclenché une peur peut-être chez moi.
Comment ils te l'ont arrachée, ta première dent?
Eh bien, ils me l'ont arrachée sans... Elle m'a dit, bouge pas, ça bouge, et boum, elle a tiré, le sang, il est venu. Et crois-moi, j'ai toujours j'ai l'impression d'avoir 11 ans sur le truc de la chaise du dentiste. Il y en avait trois qui me tenaient. Ça va pas encore. Je sais pas, c'est des phénomènes bizarres. Hein. J'ai peur d'aller chez le dentiste. Ça craint. Sur ma vie, ça craint. Dans ma situation, ça craint. J'ai peur.
Merci à tous. C'était un reportage de Charlotte Perry, le premier reportage de Charlotte Perry. Merci à monsieur et madame Potier, madame Stenbach, à Elisabeth, Fernanda, Marius, Momo, Avril et Nathan, et à Diaba. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas, si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Olivier Riotor et Michel Bizikian, Yann Chouquet et Koyen Guyenne ont réalisé cette émission modeste et géniale, et c'est Christophe Imbert qui attend impatiemment vos messages au répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Vous pouvez aussi vous exprimer sur le mail de l'émission daniel.mermet@radiofrance.com.